13e épisode. La fleur du sommeil. Chapitre 1er. Le voleur invisible. Les quais du petit port de Bazan présentaient ce matin-là une vive animation. Des coulisses japonais, tagals, chinois et malais s'occupaient activement à décharger une grande jonque à la poupe dorée, aux voiles de bambou tressé, dont la cargaison se composait de porcelaine venue de la grande île de Nippon, de nids d'hirondelles récoltés dans les cavernes de Sumatra, d'holoturies, de confitures de gingembre, de pousses de bambou confites dans du vinaigre et d'autres aliments exclusivement asiatiques. L'arrivée de la jonque, qui mettait en émoi tous les négociants de la petite ville, n'était pas la seule cause qui excita la curiosité des badauds. Peu de temps après la jonque, une grande barque de pêche était entrée dans le port. Elle était montée par 4 hommes, 2 Esquimaux, un Cosaque, ou un Kalmouk au type tartare très accusé, enfin un Européen que l'on supposait être anglais ou français, et dont la physionomie encadrée par de longs cheveux d'un blanc de neige et de larges favoris exprimait la douceur et l'intelligence. Ce vieillard, sans nul doute le propriétaire de l'embarcation, était luxueusement vêtu d'une pelisse doublée de renard bleu et coiffé d'une toque de la même fourrure. Il avait avec lui de nombreux bagages, que ses 3 serviteurs se hâtèrent de tirer hors de la barque et de déposer sur le quai. Ils avaient à peine terminé lorsque le gouverneur du port, un Japonais nommé Nogi, s'avança au milieu d'une grande affluence de curieux pour demander des explications à l'étranger. Monsieur Nogi, prétentieusement vêtu d'un complet à carreaux de fabrication américaine, parlait très couramment l'anglais. C'est dans cette langue que la conversation s'engagea. Le nouvel arrivant, d'ailleurs, lui fournit immédiatement les explications les plus satisfaisantes. Il se nommait Prosper Bondona. C'était un savant français connu dans le monde entier par ses travaux sur la météorologie, et aussi sur la botanique et la médecine. Il déclara qu'en se rendant de San Francisco à Vancouver, il avait été victime d'un naufrage, dont il n'avait pu sauver que ses papiers les plus précieux, quelques appareils de physique et une certaine somme d'argent. À la demande du Japonais, M. Bondona exhiba diverses pièces qui ne laissaient aucun doute sur son identité. Une fois fixé sur ce point, le gouverneur se mit obligeamment à la disposition du vieux savant pour tous les renseignements dont il pouvait avoir besoin. L'île de Bazan, expliqua-t-il, est celle des possessions japonaises qui est située le plus au sud. Complètement isolée dans le Pacifique, elle se trouve à des centaines de lieues de toute terre habitée entre les Philippines et le groupe des îles Hawaï. Voilà qui est regrettable, dit M. Bondona. Comme vous devez le supposer, mon plus vif désir serait de rentrer en France aussitôt que possible. Vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Dans 3 semaines, vous pourrez prendre le paquebot américain qui fait le service régulier entre Shanghai et San Francisco. Voilà qui me rassure un peu. Je vais immédiatement télégraphier à mes enfants, qui doivent être très inquiets à mon sujet. » Le Japonais eut un sourire ambigu qui découvrait ses dents pointues et releva l'angle de ses sourcils obliques. « Malheureusement, fit-il, l'île de Bazan n'est pas encore reliée au Japon par un câble électrique. »« Tant pis, murmura le savant dont la physionomie exprima un vif désappointement. « Puisqu'il en est ainsi, monsieur le gouverneur, je compte sur votre obligeance pour m'indiquer les moyens de me loger confortablement. » Pour cela, rien de plus facile. Il y a précisément à louer dans la banlieue de notre petite capitale plusieurs villas toutes meublées et entourées de beaux jardins. Je ne regarderai pas au prix, pourvu que l'habitation soit convenable, car je ne vous cacherai pas qu'après les émotions d'un naufrage, plusieurs nuits passées en pleine mer, j'ai besoin de me reposer. Je ne suis plus jeune, hélas. Vous verrez que vous serez très bien. Et cette villégiature forcée vous permettra de visiter notre pays qui, très peu connu certainement en Europe, mérite par beaucoup de points d'attirer l'attention d'un savant tel que vous. La faune et la flore sont très variées et n'ont guère été jusqu'ici beaucoup étudiées. Enfin, vous trouverez par tout pittoresque point de vue et dans l'intérieur des ruines de temples bouddhiques qui sont dans leur genre de vraies merveilles. M. Bondona, qui s'était attendu à ne rencontrer dans cette île perdue que des espèces de sauvages, se déclara enchanté de la courtoisie du gouverneur. Au bout d'une demi-heure, ils étaient les meilleurs amis du monde et, au bout d'une heure, le savant était devenu moyennement la somme de $25, locataire d'une délicieuse habitation entouré d'un vaste jardin. Cette affaire, une fois conclue, il revint jusqu'au quai où était amarrée l'embarcation, et sur son ordre, le Cosaque et les Esquimaux chargèrent les bagages sur leurs épaules afin de les transporter à la nouvelle demeure. Tous 4 traversaient les rues étroites de la petite ville, toujours accompagnés du gouverneur Nogi, qui s'était constitué l'obligeant cicérone du français. L'île de Bazan, expliquait-il, est, grâce à sa situation toute spéciale entre l'Asie et l'Océanie, habité par une population extrêmement variée. Il y a ici 7 ou 8 races différentes. D'abord les Japonais qui sont les maîtres du pays et occupent la fonction publique, puis les anciens habitants qui appartiennent à la race malaise ou chinoise. Enfin, des immigrants venus de tous les points de l'Océanie, Kanak, Tahitien, Papou, Maori et Fidjien. Il ne manquait plus, dit M. Bondonna, que moi et mes serviteurs pour compléter cette collection ethnologique. Leur conversation fut brusquement interrompue par une série de gémissements et de cris plaintifs qui s'élevaient à l'autre extrémité de l'étroite rue qu'ils étaient en train de traverser. Ils pressèrent le pas et se trouvèrent tout à coup en présence d'un océanien déjà vieux et qui tenait entre ses bras, presque inanimé, une jeune fille au teint cuivré, son enfant sans doute. Et c'était lui qui poussait les gémissements lamentables qu'il venait d'entendre.
« Que se passe-t-il donc ?» demanda vivement le gouverneur japonais à l'indigène.
L'homme leva les bras au ciel avec désespoir.
« Ma fille, s'écria-t-il, ma chère Atuara, morte, perdue, elle vient d'être piquée par une vipère à crête rouge, il n'y a pas de remède. »
Monsieur Bondonna s'était avancé. « Ma venue est vraiment providentielle, dit-il. Par une chance extraordinaire, j'ai précisément dans mon bagage quelques flacons du sérum du docteur Yersin, contre la morsure des serpents. » Et se tournant vers le Cosaque. « Vite, Rapopov, ordonna-t-il en langue russe. Ma trousse est la boîte numéro 17 où se trouvent les sérums. » Le Cosaque s'empressa d'obéir.
« Sauvez ma fille !» murmurait l'indigène. « Et tout ce que j'ai vous appartient !»
Sans lui répondre, M. Bondonna se mit immédiatement à l'œuvre. À l'aide de la seringue de Pravaz, il pratiqua plusieurs injections de sérum. Puis il agrandit la blessure du bras, et c'est là que la jeune fille avait été piquée, en pratiquant avec le scalpel une incision cruciale. Il fit saigner la plaie, puis la cautérisa avec quelques gouttes d'hypochlorite de chaux. Il avait pratiqué toutes ces opérations avec une prestesse qu'on n'eût jamais soupçonnée d'un homme de son âge. « Oui, fit-il, maintenant je crois que l'on peut considérer cette charmante enfant comme à peu près hors de danger. Y a-t-il longtemps qu'elle a été piquée ?»«
10 minutes à peine, monsieur le docteur, » répondit en mauvais anglais l'indigène, tellement éperdu de joie qu'il en demeurait stupide.
« Au revoir, mon ami, dit monsieur Bondonna. Vous coucherez la malade et lui ferez prendre des infusions chaudes, et, à moins que mon sérum ne soit éventé, ce qui arrive malheureusement quelquefois, je crois qu'elle en réchappera. » Laissant les deux indigènes encore sous le coup de la violente émotion qu'ils venaient d'éprouver, M. Bondonna continua son chemin avec le gouverneur Nogi, qui tint à l'accompagner jusqu'au seuil de sa charmante demeure et qui, chemin faisant, le remercia chaudement de son obligeance et de sa présence d'esprit. Tous deux se séparèrent, enchantés l'un de l'autre. Les maisons des Japonais ne sont généralement construites que de bambous et de planches légères, et les cloisons intérieures sont ordinairement formées par des feuilles de papier tendues sur des châssis. Il n'y existe d'ailleurs aucun moyen de chauffage sérieux. La maison que venait de louer M. Bondonna était heureusement plus solide. Elle avait été bâtie quelques années auparavant par un Anglais, et les murailles en étaient de briques solides. Le toit était couvert de tuiles vertes et jaunes, d'un effet très pittoresque, et ce qui fit grand plaisir à M. Bondonna, elle était munie de portes fermant à clé. Elle ne comprenait que 4 pièces, 2 au rez-de-chaussée, séparées par un couloir qui aboutissait au jardin, et 2 au premier étage. L'ameublement était demeuré tel que l'avait laissé son premier propriétaire. Les sièges, très commodes, étaient de bambou et de rotin. Les gros meubles de ce bois de camphrier rose qui est abondant dans ces parages. Enfin, la chambre à coucher, munie d'un cabinet de toilette avec un appareil à douche, offrait un lit de fer et de cuivre protégé par une moustiquaire. En somme, M. Bondonna ne pouvait espérer trouver mieux. Le jardin surtout l'enchanta, avec sa luxuriante végétation qu'entourait une solide palissade de bambou. Il y avait là de belles collections de lys et de chrysanthèmes, des cycas et des bananiers, des cerisiers en fleurs, des palmiers et des orangers, et de superbes coquetiers chargés de fruits. Au centre, un bassin orné de rocailles était rempli de dorades de la Chine et de poissons aux gueules monstrueuses, dont quelques-uns portaient de petits anneaux d'argent passés dans les ouïes. M. Bondonna s'installa joyeusement. Il rangea ses papiers dans le petit meuble de camphrier à tiroir qui se trouvait dans sa chambre à coucher. C'est là aussi qu'il déposa un appareil qui servait à constater la présence des radiations ultraviolettes et qu'il avait inventé pendant son séjour à l'île des Pendus. Cet appareil d'une excessive sensibilité était renfermé dans un écrin. Sans l'impatience qu'il éprouvait à la pensée de passer encore 3 semaines sans donner de ses nouvelles à sa fille, le vieux savant eût été parfaitement satisfait. Il se proposait d'ailleurs de rapporter de son séjour dans cette île de Bazan, qui n'avait été étudiée par aucun savant, les documents les plus curieux, et peut-être, qui sait, une plante ou un animal inconnu. Après avoir fait, comme on dit, le tour du propriétaire, M. Bondonna appela le Cosaque Rapopov et le chargea d'aller aux provisions. Rapopov s'empressa d'obéir, emmenant avec lui les 2 Esquimaux. Il ne revint qu'au bout d'une heure, pliant sous le poids de victuailles de toutes sortes. Les négociants japonais et tagals avaient abusé de la naïveté du Cosaque pour lui faire acheter toutes sortes de comestibles hétéroclites.
Il rapportait des mets si bizarres que M. Bondonnel lui-même en demeura rêveur. Il y avait des ailerons de requin confits dans la saumure, un dépôt de grès qui renfermait de jeunes chiens mort-nés, préparés au miel, ce qui est considéré par les mandarins comme un manger fort délicat. Du vin de riz dans des bouteilles entourées de soie violette, des cocons de verre à soie dont on fait, paraît-il, des crèmes délicieuses. Enfin, des vers de terre salée, de l'alcool de kawa dans une calebasse et de la confiture d'algues marines. Nous allions oublier des conserves de bœuf de Chicago, des salaisons allemandes et une foule d'autres articles d'épicerie européenne dont l'énumération serait interminable. Heureusement, M. Bondonnat aperçut dans tout ce fatras indigeste une belle langouste et des fruits magnifiques. Ananas, goyave, nèfles du Japon, noix de coco, mangue, pomme crème et jusqu'à deux des fruits volumineux de l'arbre à pain qu'il suffit de mettre au four quelques instants pour avoir un délicieux gâteau. « Que de choses !» s'écria le savant. « Mais tu es fou, mon pauvre Rapopoff. Il y a presque de quoi monter une boutique. Jamais nous ne pourrons manger tout cela. »« Ceux-là s'en chargeront, petit père, » répondit le Cosaque en montrant d'un geste éloquent les Esquimaux qui riaient d'un rire béat, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. M. Bondonnat était ce jour-là de si belle humeur qu'il ne songea pas à gronder Rapopoff. « Tu as raison, lui dit-il. Ces deux braves Esquimaux, grâce auxquels, somme toute, nous devons notre liberté, reprennent la mer demain pour regagner l'île des pendus. Il est juste qu'on leur fasse fête avant de leur dire adieu. » Le Cosaque était devenu tout à coup pensif. « J'aime mieux, fit-il, qu'ils y retournent que moi, dans cette île maudite. Je suis sûr qu'ils y seront très mal accueillis. »« Non, dit M. Bondonnat, si je croyais qu'il leur arriva quelque désagrément, je le garderais avec moi. Mais il n'en sera pas ainsi. Lorsqu'ils vont à la pêche, ils restent parfois plusieurs jours en mer, pour peu qu'ils soient entraînés par un vent contraire. Puis, comme on aura trouvé mon prétendu cadavre, on n'aura pas la pensée de les inquiéter. » Les Esquimaux dépassèrent les espérances de M. Bondonnat. Ils trouvaient tout délicieux. Petits chiens, vers de terre et le rond de requin, ils dévorèrent tout. On voyait leurs pans s'arrondir à vue d'œil, et M. Bondonnat redoutait à part lui qu'ils ne vinssent à éclater. Il n'en fut rien, heureusement. Les deux pêcheurs, dont l'estomac était sans doute aussi robuste que celui des serpents boas, passèrent une nuit paisible, et le lendemain matin, frais et dispos, ils se présentèrent devant le savant pour lui faire leurs adieux. M. Bondonnat leur permit d'emporter les restes du dîner oriental en guise de provision de voyage et, ce qui leur fit encore plus plaisir, ils leur remirent à chacun 100 $ en bonne monnaie d'argent. Rapopoff alla les reconduire jusqu'à leur embarcation et revint d'un air satisfait apprendre à son maître que les Esquimaux avaient repris la mer, favorisés par une excellente brise du sud-ouest qui devait les mener rapidement à bon port. Le lendemain et les jours suivants furent employés par le naturaliste à s'installer dans sa villa, dont il se montrait de plus en plus content. Puis il visita la ville, une incohérente petite cité où les palais de briques coloriées faisaient vis-à-vis à des cahutes couvertes de feuilles de palmier et à des maisonnettes de bambou et de papier, jolies et frêles comme des jouets. D'ailleurs, le vieillard n'excitait plus à la curiosité de personne. Depuis qu'on savait qu'il était en bon terme avec le gouverneur Nogi, chacun lui montrait la plus aimable prévenance. Au cours de ses promenades, le savant put se convaincre que M. Nogi n'avait pas exagéré en parlant du pittoresque de l'île. Placé en dehors des grands chemins de la civilisation, ce coin de terre avait gardé toute son originalité, toute sa couleur propre. De plus, le climat, très chaud mais tempéré par la brise du Pacifique, en faisait un véritable Éden, où poussaient à la fois toutes les plantes du Japon et une grande partie de celles de Java et des îles polynésiennes. L'air était délicieusement embaumé d'un parfum léger et subtil, où se combinaient le musc, l'ambre et les fleurs du citronnier. Dans cette atmosphère enchantée, le seul fait d'exister était un véritable bonheur. M. Bondonnat, amolli par ce climat perfide, perdait de son énergie, se laissait aller à de longues rêveries, à des heures entières de paresse dans son jardin touffu comme une clairière, ou sur le rivage où retentissait l'éternelle et bruissante chanson du vent dans le feuillage des philaos et des grands coquetiers. Le savant, en allant faire une visite au gouverneur Nogi, avait appris avec plaisir que la petite indigène, Atuara, se portait aussi bien que possible. Mais il n'avait plus entendu parler d'elle ni de son père. 8 jours s'écoulèrent ainsi sans que le vieux savant s'ennuyât une minute. Il fut agréablement surpris un matin en voyant entrer chez lui sa gentille malade accompagnée de son père qui, pour cette visite importante, avait jugé bon de revêtir un complet à grands carreaux de couleur voyante qui semblait emprunté à la garde-robe d'un clown. Un chapeau de fibre de coquetier, imitant le Panama, complétait ce déguisement mondain. Atuara, elle, soit par bon goût naturel, soit par impossibilité pécuniaire, n'avait pas jugé à propos de faire appel aux modes européennes pour sa parure.
Ses cheveux, un peu crépus et d'un noir bleuâtre, étaient relevés à la mode japonaise et retenus par des épingles de corail. Elle n'avait pour tout vêtement qu'un léger kimono de soie où couraient des arabesques de feuillage et de fleurs et qui laissaient les bras nus jusqu'aux coudes. La jeune fille avait le teint couleur de cuivre clair, le nez droit et délicatement modelé. Ses lèvres un peu fortes et ses longs gros yeux noirs lui donnaient une grâce sauvage dont rien, parmi nos pâles beautés, ne peut donner une idée. Hatuara était admirablement faite, et dans toute sa personne, de ses seins menus qui pointaient sous l'étoffe légère jusqu'à ses hanches déjà opulentes, un sculpteur n'eût rien trouvé à critiquer. Ce beau corps avait la pureté de dessin d'un vase grec ou d'une svelte fleur. Puis il y avait en elle une vivacité de mouvement, une franchise de regard et de gestes, d'un charme presque animal, qui ajoutait encore à ses autres séductions. Hatuara était chargée d'un filet de raffia tressé rempli des fruits les plus magnifiques. C'était un présent qu'elle venait apporter à son sauveur et qu'elle promettait de renouveler très souvent. Rapopov disposa dans une corbeille ce savoureux cadeau dont la salle à manger se trouva tout embaumée. M. Bondonna régala ses visiteurs d'une tasse d'excellent thé jaune, accompagnée de confitures et de gâteaux secs, et l'on causa. Amalou, le père de Hatuara, avait amassé une certaine fortune en faisant le trafic dans les îles polynésiennes sur une petite goélette dont il était le propriétaire. Maintenant, ses économies solidement placées à la succursale de la banque de Yokohama, il vivait paisiblement de ses rentes, et son seul souci était de trouver à sa fille un époux digne d'elle. Il accabla M. Bondonna de questions sur l'Europe, sur la France et sur Paris, et le vieux savant le renseigna avec sa patience et sa bonté accoutumée. Quant à Hatuara, elle se tenait silencieuse, contemplant avec admiration le mobilier de la salle à manger. Puis elle alla visiter le jardin. Et elle revint au moment où Amalou voulait à toute force faire accepter au docteur, à titre d'honoraire, plusieurs pièces d'or anglaises. M. Bondonna refusa énergiquement, au grand chagrin du brave homme. « Que pourrais-je donc faire pour vous être agréable ? » demanda-t-il au savant. « Eh bien, tenez, au moment où vous êtes entré, je me préparais justement à aller à la pêche. Venez avec moi, vous me montrerez les bons endroits. »« Je vais vous laisser ma petite Hatuara. C'est une pêcheuse fort habile et elle sera très heureuse de vous accompagner. »« J'accepte avec grand plaisir. Allons, Rapopov. » « Apporte les lignes et le panier. » 10 minutes après, tous trois descendaient sur le rivage, qui n'était qu'à quelques pas de la clôture du jardin, et l'on s'installait dans une petite anse que Hatuara déclara très poissonneuse. Le ciel et la mer étaient d'un azur admirable, et les vagues venaient presque caresser la racine des cocotiers et des tamariniers au feuillage d'un vert éclatant. L'eau était si calme qu'on apercevait dans les profondeurs les broussailles blanches des coraux, au-dessus desquels se balançaient les méduses étincelantes de toutes les couleurs du prisme. De temps en temps, des vols de poissons roses, lilas, jaunes d'or, filaient entre les grandes algues, au pied desquelles s'attachaient les holothuries azurées et les oursins verts et violets. C'était sous le cristal de l'onde transparente une série de fantastiques paysages d'une richesse de tons et d'un éclat presque irréel. M. Bondonna jeta sa ligne armée de quelques vermisseaux marins, et bientôt il eut ramené des trigles d'un rouge vif et une murène au corps de velours noir constellée de taches d'or. Hatuara le regardait faire avec un sourire de pitié. Vraiment, songeait-elle, ce vénérable étranger qui lui avait sauvé la vie n'entendait rien à la pêche. Il fallait lui donner une leçon. Sans rien dire, elle avait pris l'épuisette, article anglais trouvé par Rapopov dans un magasin de la ville, et elle capturait de tout petits poissons qu'elle déposait dans un creux du rocher à côté d'elle. Quand elle en eut assez, elle les mit dans sa bouche. Puis, rejetant d'un seul geste son pyjama, elle plongea hardiment dans la mer. M. Bondonna, quelque peu estomaqué, la vit filer comme une sirène entre les coraux et les varechs polycolores. Elle reparut bientôt à la surface, souriante, et tenant dans la main deux grosses dorades au ventre d'argent. « Je suis une petite sauvage, moi, » expliqua-t-elle dans son mauvais anglais. « Tout enfant, j'ai appris à pêcher de la sorte. »« Comment fais-tu ? » demanda M. Bondonna très amusé. « Ce n'est pas difficile. Je laisse aller un à un les petits poissons, et quand il s'en approche un gros, je le tue d'un coup de dent sur le haut de la tête. » « J'avoue, dit M. Bondonna avec un paternel sourire, que je serais bien incapable d'en faire autant. Ma ligne me suffit. » Maintenant qu'elle avait montré ses talents au docteur, Hatuara, sans honte comme sans coquetterie, s'était étendue sur le roc pour sécher son beau corps. Et elle allait et venait, vive et pétulante comme un oiseau, cueillant des fleurs, ramassant des cocos tombés des arbres ou courant après les papillons et les insectes. M. Bondonna était enchanté de la gentillesse de sa petite camarade. Et, quand ils se séparèrent, il la força d'accepter la moitié des poissons qu'ils avaient pris ensemble. Elle promit de revenir le lendemain à la villa avec de nouveaux présents. Dès lors, il ne se passa pas un seul jour sans que M. Bondonna reçût sa visite. Tantôt elle apportait des fruits, tantôt de beaux coquillages ou des poissons pêchés par elle. Occupée d'études et de promenades, Le vieux savant voyait s'écouler les jours sans ressentir le moindre ennui. Et il se promettait plus tard de revenir avec ses deux enfants, sa fille Frédéric et sa fille adoptive André, pour leur faire visiter cette île enchanteresse. Bazan était décidément un pays sans défaut. Les habitants même, presque tous bouddhistes, y étaient très doux, très bons et très serviables. Le gouverneur Nogui avait bien prévenu M. Mondona que les voleurs étaient nombreux dans l'île et d'une habileté stupéfiante. Mais jusqu'ici, le savant n'avait eu à se plaindre de personne. Cependant, par mesure de prudence, il faisait coucher le fidèle Rapopov sur une natte en travers de la porte de sa chambre et, cette précaution prise, il dormait aussi paisiblement dans son lit de cuivre que s'il ne se fût pas trouvé dans une île perdue à 2 ou 3 000 lieues de son pays natal. Un matin, M. Mondona constata avec la plus vive surprise que les tiroirs du petit meuble de confrier étaient demeurés entr'ouverts. Et il s'aperçut bientôt que ses papiers avaient été fouillés, bouleversés comme par une main impatiente. « Voilà qui est étrange !» s'écria-t-il. Et s'approchant de Rapopov, fort occupé en ce moment à épousseter. « Tu n'es pas sorti cette nuit ?»« Non, petit père. »« Tu n'as pas quitté ta place ?»« Je n'ai pas bougé du seuil de la porte. »« Je n'ai fait qu'un somme. »« Tu n'es pas somnambule ?» Le cosaque ouvrit de grands yeux. Il fallut un quart d'heure pour lui expliquer ce qu'est un somnambule. Et, quand il eut compris, il déclara qu'il était absolument indemne de cette singulière infirmité. « Voilà qui est extraordinaire. C'est peut-être moi, après tout, qui suis somnambule. » M. Mondona se plaisantait lui-même, car il avait les nerfs parfaitement équilibrés et n'avait jamais eu à en souffrir. Un peu préoccupé, il remit en ordre ses notes et ses paperasses. Il n'avait pas encore terminé quand le cosaque lui demanda de l'argent pour aller aux provisions. M. Mondona prit la petite clé qui ouvrait un des tiroirs du meuble, celui qu'il avait fermé lui-même la veille au soir, et il constata avec une stupeur profonde que ce tiroir, lui aussi, était ouvert. Le portefeuille qui contenait les banknotes était bien à sa place, mais il paraissait considérablement désenflé. Très intrigué, il fit son compte. 10 billets de banque manquaient à l'alias qui lui avait été remise par les lords de la main rouge. Il était profondément stupéfait. Cette fois, sa perspicacité était en défaut. Il était impossible que quelqu'un fût entré sans réveiller le cosaque et, d'un autre côté, il ne pouvait soupçonner ce brave Rapopov qui lui avait donné tant de preuves de dépouvement et qui, d'ailleurs, avait toujours professé un profond mépris de l'argent. M. Mondona examina la fenêtre. C'était une de ces fenêtres dites à guillotine qui s'ouvrent de haut en bas et qui sont usitées dans toutes les colonies anglaises. Le verrou intérieur était poussé et ce n'était pas par cette voie qu'avait pu passer le voleur. Il en était de même des fenêtres du rez-de-chaussée, et quant aux deux portes, celles qui donnaient sur la route et celles qui aboutissaient au jardin, le savant les retrouva dans l'état où elles étaient la veille au soir, c'est-à-dire fermées à clé. C'était à n'y rien comprendre. M. Mondona se livra aux suppositions les plus folles, sans en trouver une qui fût vraisemblable. En désespoir de cause, il alla jusqu'à sonder les murailles à coups de marteau pour voir si elles ne recelaient pas une issue secrète. Partout, les murailles sonnaient le plein. Et d'ailleurs, elles étaient trop peu épaisses pour pouvoir dissimuler une trappe quelconque. Le vieux savant passa une partie de la matinée à essayer de deviner cette énigme. Il ne put y parvenir. Il finit par y renoncer, en essayant de se persuader à lui-même qu'il avait été le sujet d'une hallucination ou la victime d'une crise subite d'amnésie. Mais il était loin d'être convaincu. « Décidément, » fit-il en hochant la tête, « je crois plutôt que j'ai eu affaire à un voleur invisible. »